C'est pas quelqu'un essayer de me piquer la place là. Sur la chaire, il y a la place que pour une Bible, celle du pasteur. Ça me fait très plaisir d'être devant vous ce matin. Très plaisir. Je suis revigoré parce que lundi, mardi, mercredi, nous avons eu la retraite pastorale de la Frée. Donc avec tous les pasteurs de la Frée, nous sommes partis à Wildersville où nous avons vécu 3 jours de séminaire, enfin de retraite, mais voilà, avec de la louange. C'est vrai que je reviens revigoré. Matthieu 7, les versets 1 à 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Attention, il y a un petit écho là qui siffle. J'ai peur que, en disant une phrase plus enthousiasmée, ça siffle. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton frère. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous nous tournons vers les Écritures, lorsque nous entendons l'Évangile, lorsque nous prions, Dieu s'adresse premièrement à toi. Ou plutôt, pour le dire autrement, Dieu s'adresse tout d'abord à moi. L'Évangile n'est pas et aussi pour les autres, mais l'Évangile n'est pas que pour les autres. Et j'aimerais te dire que ce message que Christ, que Dieu s'est incarné il y a 2000 ans, qu'il a vécu, qu'il s'est entouré de disciples, qu'il a annoncé le royaume, qu'il a été crucifié et qui est ressuscité pour toi, ce message-là, ce n'est pas que pour les autres, mais c'est aussi pour toi. Et donc, pendant la semaine, j'ai eu envie de prêcher sur cette notion de paille et de poutre. Cette fameuse parabole qu'on trouve au chapitre 7 de Matthieu, donc dans la dernière partie du sermon sur la montagne. Et en y réfléchissant un peu, je me suis dit, c'est quand même une parabole improbable. Vous savez, vous avez des paraboles, la parabole du semeur. Et là, vous avez la première phrase, un semeur sorti pour semer. Vous dites là, ça c'est probable quand même qu'un semeur sème. Ici, dans cette parabole, on nous parle d'une paille dans l'œil. Qui est-ce qui a déjà pris une paille dans l'œil ici? Alors, c'est peut-être qu'on ne fait pas beaucoup les foins à la main. Mais j'ai pas osé poser la question pour la poutre. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, Yvan? Je crois que tu as une poutre dans l'œil, là. Le premier élément que j'aimerais poser, c'est, et je trouvais intéressant, la poutre n'est pas une super paille. Des fois, on a un peu cette conception que c'est une différence de taille et que celui qui a une poutre, pour prendre un exemple, eh ben celui qui a la paille, il vole des bonbons, puis celui qui a la poutre, il cambriole des maisons. Alors, je crois pas que c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je crois qu'il s'agit de deux éléments bien distincts. La paille, c'est ce qui est éphémère, ce qui s'envole, ce qui est fragile, ce qui est léger, ce qui peut venir et repartir. De l'autre côté, la poutre est durable. C'est quelque chose qui est fait pour durer. J'espère que chez vous, les poutres de votre charpente tiennent bien. J'espère que vous l'avez contrôlé il n'y a pas trop longtemps. Normalement, ça doit tenir, c'est fait pour tenir. Et je pense que la différence ici entre la paille et la poutre est au niveau de la longévité. Et en même temps, lorsqu'on se met à creuser, cette notion de paille, de poutre et de jugement pose question. Tout l'enjeu de notre passage, c'est de se poser la question, quelle est la portée du jugement? C'est quoi la portée du jugé? Il commence en disant, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Qu'est-il en train de dire? Est-ce que Jésus annonce la fin du système judiciaire? En disant ne pas juger, il dit, on peut plus juger, donc il n'y a plus de justice. Alors, vous conviendrez que ça paraît quand même un peu gros, mais on trouve des mouvements monastiques en Syrie et en Égypte qui effectivement sont fondés sur ce concept de ne absolument pas juger. Par chez nous, le mouvement ménonite, au 15e et au 16e siècle, un ménonite ne pouvait pas exercer l'office de juge parce qu'il disait qu'on ne peut pas juger et donc un vrai croyant ne peut pas être juge. Un peu plus loin, pas au même endroit, c'est Tolstoï qui parle de ce jugement, de l'interprétation de ce passage, et lui, il met en doute la sincérité des interprètes lorsque on n'applique pas cette parabole à notre système de justice. Et donc, on a des personnes qui utilisent ce non-jugement comme une interdiction de justice. Alors, je me permets de le dire là, je ne crois pas que c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Et on le voit avec le reste de la révélation, Dieu est un Dieu de justice, et disons-le, l'absence de justice profite toujours aux injustes, malheureusement. La deuxième interprétation, et je trouve qu'on l'entend un peu le plus souvent, c'est au travers de ce slogan « c'est pas bien de juger ». Je sais pas, en lisant ce verset, moi j'avais le souvenir d'enfance, vous savez, les petits enfants qui « faut pas mentir » et tout, qui ont comme ça des slogans. Puis un des slogans, c'est « c'est pas bien de juger, faut pas juger ». Et je trouve que la façon dont est employé ce slogan peut être dangereux. Parce qu'on donne tellement de poids au jugé qu'on a des fois l'impression, lorsqu'on dit « il faut pas juger », qu'on n'a plus le droit d'avoir d'opinion. Qu'on n'a plus le droit d'évaluer la qualité d'une action. Imaginons dans un monde fou que quelqu'un rentre à torse nu maintenant dans la salle de culte. Vous conviendrez quand même, alors mis à part se poser la question, est-ce qu'il a un t-shirt, est-ce que je pourrais pas lui prêter ma veste, mais vous conviendrez quand même qu'on aurait quand même une opinion un peu pensive. Mais qu'est-il en train de faire celui-là? Mon problème lorsque on pense à « il ne faut pas juger », cette phrase, ce slogan, est des fois utilisé pour éteindre notre conscience, ou comme je le trouve, comme un bouclier, comme le bouclier du relativisme. Ah, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice, Il n'y a pas. Et on ne peut pas juger une personne ou la qualité de son action. Ah non, parce que dès qu'on émet un avis, tout d'un coup, attention à la poutre. La poutre est pas loin de l'œil. Non, moi ce que je crois, ce que Jésus nous appelle dans ce texte, c'est avant tout un appel à vivre l'Évangile. Et je vais me permettre de confirmer, trois fois dans ce texte apparaît le mot « frère ». Et la plupart des commentateurs disent que ce « frère » permet de limiter, ou plutôt d'orienter ce texte au niveau de la communauté. Ce texte ne s'applique pas au système judiciaire dans son entier, mais parle des relations entre frères et sœurs dans une communauté. Et lorsqu'on parle de ces relations, et lorsqu'on lit ce sermon sur la montagne, on réalise cet appel à vivre. Le message de l'Évangile s'adresse à moi. Et pour nous aider à réfléchir ou à comprendre, imaginons que je commence une situation totalement imaginaire. Le pasteur annonce qu'il va prêcher sur la colère. Vous est-il déjà arrivé dans votre tête de vous dire « C'est quand même dommage qu'Antoine ne soit pas là. Le pasteur prêche sur la colère. » C'est dommage. Et à ce moment-là, à ce moment où vous réfléchissez à ça, il y a Juliette qui éternue ou qui tousse. Et là, ça vous tourne le regard là. Effectivement, là, Juliette, au dernier repas communautaire, tu t'es un peu énervée. La prédication est pour toi, là. Alors, je dois vous avouer que ça m'arrive rarement, ou de moins en moins. Et je crois que le problème dans ce type d'attitude, dans cette attitude, c'est qu'on ne comprend pas que le message s'adresse aussi à moi et pas qu'aux autres. Lorsque Jésus nous appelle à pardonner, il n'appelle pas que les autres à me pardonner, mais il m'appelle aussi moi à pardonner aux autres. Lorsque Jésus, dans le même passage, nous encourage à donner, nous dit « donne », c'est pas que les autres qui doivent me donner, mais moi aussi je dois donner un peu aux autres. Et pourquoi je tourne là autour et j'insiste là-dessus, c'est qu'on voit bien dans ce texte, Jésus s'adresse pas à n'importe qui. Jésus a une personne en particulier devant les yeux, c'est l'hypocrite. On lit au verset 5, « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. » Et Jésus s'adresse souvent aux hypocrites. On a plusieurs, tout au long des évangiles, plusieurs fois Jésus est très ferme contre l'hypocrisie. On voit notamment dans Jean entre Pierre et Judas, Jésus n'aime absolument pas les hypocrites parce que l'hypocrisie est un aveuglement spirituel. Lorsque je suis hypocrite, je n'arrive pas à voir la réalité. Dans notre texte, et on voit bien ici, l'hypocrisie est un problème de vue. Vous remarquerez que quand vous avez une poutre dans l'œil, vous ne voyez plus grand-chose. Et tout le problème de l'hypocrite, c'est qu'il ne voit pas, mais qu'il est sûr de voir. D'ailleurs, vous verrez jamais un hypocrite dire qu'il est hypocrite. Généralement, en parlant d'hypocrisie, c'est toujours les autres qui le sont. On faisait une petite retraite avec des amis et on a rencontré un jeune homme qu'un ami connaissait et on s'est mis à discuter et il nous a raconté une histoire dramatique. Il avait été pris dans une forme de secte légaliste quelque part dans le sud de la France, donc c'est loin d'ici. Et c'était une de ces communautés de pureté ou de sainteté où l'on est extrêmement rigoureux sur par rapport au moindre faux pas et que voilà, la discipline est très appliquée. Alors j'ai trouvé intéressant de discuter avec quelqu'un qui a vécu ça, et il nous a quand même dit que ça s'est arrêté lorsque le responsable, alors je suppose l'apôtre de cette communauté, a été pris en train de faire un adultère. Et en fait, il semblerait que ce responsable vivait en adultère depuis 20 ans, alors que justement, il avait une communauté qui imposait un strict respect de toutes les lois. Et j'ai trouvé quand même, alors j'ai pas envie, c'est dramatique, mais un peu humoristique, quoi. C'est la personne qui prêche la pureté le plus et pendant 20 ans qui se permet à côté de vivre dans l'adultère avec la femme du deuxième du groupe. Voilà. J'ai trouvé que c'était assez fort. Et je veux quand même, par rapport à l'hypocrisie, finir par quand même un point positif. Ce qui est simple avec l'hypocrisie, c'est qu'il suffit de la confesser pour en être libéré. Et donc, pour revenir à notre texte, à ce « ne jugez pas », qu'on soit clair, je ne vous encourage pas à vous juger les uns les autres. Et cette phrase qui dit « n'utilisez pas, vous serez jugés » par la mesure que vous aurez utilisée, s'applique à nous. Et c'est bien parce qu'elle s'applique à moi que ce texte s'adresse à moi avant tout. Ce n'est pas les autres qui doivent recevoir ce texte, mais c'est moi. Et pour reprendre cette notion de paille et de poutre, j'aimerais vous inviter et vous lancer un appel tout simple. Et j'ai été frappé en préparant ce même appel qui est en Corinthiens, au moment de l'institution de la scène, dans Corinthiens, que chacun s'examine soi-même. Et j'aimerais vous lancer cet appel, examinez-vous vous-même pour savoir est-ce que vous avez une poutre dans l'œil ou pas. Alors, j'ose pas trop vous dire si vous avez une paille. J'aimerais pas me faire poutrer. Mais, je crois qu'il y a vraiment, le cœur de mon message, c'est Jésus s'adresse à toi. Jésus s'adresse pas qu'aux autres. Et lorsqu'il nous encourage à retirer la poutre, il nous met tous face, à ce défi, à cette question. Ai-je une poutre dans l'œil? Ai-je un comportement, une habitude, quelque chose qui est ancré dans ma vie et qui m'aveugle? Suis-je libre de voir Dieu et son royaume? Amen.